Allô, merci. Oui, j'ai regardé une émission dimanche soir. Madame Renfin qui chantait avec du tape entre un enfant par la main, c'était horrible. J'en ai marre de voir toutes ces conneries-là. Marre de la télé, marre de la France. Je vais me barrer. Quoi? Pourquoi j'ai pas été à la télé? Pourquoi j'ai regardé une merde comme ça? Et pourquoi je me barre pas? Ah non, mais vous comprenez pas. C'est tout à fait ce que j'en ai marre.
Alors voilà, je me dis, si tous ces gens-là mettaient leur menace à exécution et qu'ils se barraient de France, eh ben ça ferait beaucoup moins de nazes.
Bonjour Daniel et bonjour à tous ceux de toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est Emmanuel de Charente-Maritime. C'est la première fois que je laisse un message et je voulais m'adresser à tous nos amis dentistes qui travaillent à perte et qui pour cela doivent opter pour la mise en liste d'attente des bénéficiaires de la CMU. En tout cas, bien sûr, en dehors des soins qualifiés d'urgents. D'ailleurs, le responsable du site ou du syndicat majoritaire nous expliquait à 13h hier sur France Inter qu'ils avaient à choisir entre éthique et économique. Et poser ça comme un choix lorsqu'on exerce une profession de santé publique, ça relève de la plus parfaite fumisterie et ne fait que mettre en lumière leur avidité galopante. Il serait souhaitable que la liste des dentistes qui travaillent à perte parce qu'ils doivent soigner les plus démunis soit accessible. Parce que la prise d'otage, loin d'éveiller un intérêt sur les problématiques de la profession, ne fait qu'illustrer l'aspect le plus vénal de la profession. Je suis pas CMUste, mais aujourd'hui je refuse de me faire soigner par un commerçant du soin dentaire, adhérent de ce sinistre syndicat. Et j'espère ne pas être le seul. Et ensemble, on peut retourner cette prise d'otage, histoire qu'ils imaginent une seule seconde la peur de la précarité. Alors salons les dentistes et les chirurgiens dentistes qui se sont refusés à cette opération piteuse de communication, qui en plus leur donne le droit d'expression dans tous les médias, ainsi que des rendez-vous dans les bureaux de la CNAM et du ministère. C'est marrant, mais cette stratégie de communication n'est pas sans rappeler celle de milieux politiques révisionnistes, par exemple. Au moins, on passe à la télé. Merci à toute l'équipe de là-bas pour cette dernière lucarne d'expression libre. À bientôt.
Bonjour, je viens d'apprendre qu'une femme de 47 ans est morte de froid cette nuit dans la rue. Eh bien, faut être positif. Voilà une à qui les dents ne feront plus mal. Les dentistes seront contents. Pas de CMU intempestive pour les perturber. La sécu va faire quelques petites économies, mais tout va bien. Notre société est malthusienne. Elle se débrouille toujours pour en avoir quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre, qui les emmerdent plus.
Merci Daniel, mille merci de ce portrait vénézuélien. Merci de m'avoir fait pleurer en entendant mon pays, celui que j'ai quitté il y a 20 ans. De me mettre mal à l'aise, juste ce qu'il faut pour sentir que j'existe. Il faut dire que je passe parfois beaucoup de temps sans entendre plus ma langue, celle qui m'habite et résonne en moi. Merci de nous permettre de retrouver la beauté vénézuélienne, celle de ses paysages, celle des Vénézuéliens et ses déchirements, et que tu décris si bien. J'adore tes silences face au churumeru, à los tepuyes, et aux trombes d'eau qui défilent devant tes yeux, à las cascadas et al salto ángel. Parfois, Daniel, il est vrai, la beauté d'un paysage nous rend muets. On connaît peu le Venezuela, mais c'est vrai que ça vaut le coup d'y aller. On ne fait jamais la pub comme pour le Brésil ou le Mexique. À travers de tes reportages, j'ai retrouvé un semblant de compromis et peut-être à tous ceux qui, comme moi, vont au Venezuela d'une manière épisodique, en vacances, quoi. Chaviste, moi, anti-chaviste, moi, mais que veut dire ça avec notre regard d'ici, notre petit confort ici, confort nostalgique en demeurant, teinté de ces manques de force, de subversion, et ce malgré mon cœur qui bat si intensement d'envie d'être là-bas. Je suis réduite à écouter ton émission, Daniel, à piocher sur Internet les bribes d'informations, comme à travers un voile fait d'ignorance. Cela dit, je dois constater le contentement de certains de mes compatriotes vénézuéliens. Je pense aux paiements et les lois qui les protègent, aux médecins installés dans les bidonvilles et qui rendent bien service aux déshérités, à ceux qui ont pris conscience de l'importance de la lecture. Cela dit, je suis allée en novembre, Daniel, et je me suis rendu compte que la sécurité est de plus en plus pressante qu'en allant chez ma mère à le manicomio, donc le petit nid de poule sur la route est devenu un cratère, que certains sourires sont devenus des grimaces lissantes, des belles bouches dentées, que ma mère, mère aussi des 14 enfants, belle et solidaire, me chuchote à l'oreille, ne parle pas de ce monsieur en parlant de Chavez, qui peut avoir des problèmes. Ô belle et généreuse vénézuélienne, dont je ne suis toujours pas capable de commenter d'une manière convaincue et convaincante, et ce malgré mon manteau sur les épaules, le grand foulard rouge autour du cou, appuyé contre le radiateur en râlant parce que je m'écaille ferme. Merci encore, Daniel. C'est Zoraïda de Montrevelle.
Eh ben bravo, magnifique, le foulard rouge près du radiateur où elle se caille, cette auditrice vénézuélienne, un beau poème d'amour à son pays. Et bah, ce sera notre édito aujourd'hui pour cette dernière au Venezuela. Par ailleurs, des nouvelles, effectivement, nous en avons des nouveaux exploits de nos amis de Greenpeace associés à la Confédération Paysanne et aux faucheurs volontaires d'OGM. Il y a ce navire, on en a parlé, on vient d'en parler au journal, de Greenpeace qui s'appelle Esperanza et qui a tenté d'aborder un navire de chargé de tourteaux transgéniques, de tourteaux de soja transgéniques en provenance d'Argentine. Et alors l'abordage n'a pas eu lieu, mais le bateau de Greenpeace, l'Esperanza, escorte le bateau argentin, et l'ensemble arrivera à Lorient ce vendredi à 10h du matin. Alors évidemment, on espère que vous serez là pour les accueillir. 32 000 tonnes de tourteaux de soja transgéniques qui arrivent dans notre beau pays. On aura des nouvelles plus précises demain de cette manifestation. Aujourd'hui donc, le Venezuela, pour la dernière. Je rappelle le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, mais vous le saviez déjà. 01 56 40 37 37.
Je voulais vous dire que je suis toute émue par tout ce que les Juifs ont vécu pendant la guerre, par la Shoah, mais je trouve qu'il faudrait pas oublier de parler des femmes gitanes qui ont servi pour les expériences des médecins allemands, pour les homosexuels, pour les communistes qui ont été enfermés aussi, prisonniers, et peut-être aussi mis dans les chambres à gaz, mais là j'en suis pas sûre. Ça n'enlève rien à ma peine pour les Juifs. Voilà, au revoir et merci.
Au secours, il neige en hiver. Que fait Sarkozy? Merde alors. C'était Gilles de Tournon.
Oui, allô, bonjour tout le monde. C'est Philippe et Ève. On est dans la voiture et on a constaté que l'émission d'aujourd'hui hors répondeur commençait en effet à 15, à 17h15 et finissait à 53. Combien? 4? 4. 3, 4. C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. En 2007, je vote Sarkozy. Voilà, voilà. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine et avec Guy. Ouh, ah, Venezuela.
República Bolivariana de Venezuela.
La base
Okay. Bravo. Attention à la tête.
Ahora
allá, muchachos.
Eldorado.
Ahí va Eldorado. Enfin,
on est. Voilà, andar la palanca
ahí. La palanca para arriba. Ajá. Eldorado. Ils ont cru à Eldorado. Et qu'est-ce que c'est Eldorado? On dit c'est un Eldorado. Eh ouais, on a cru à ça. On a cru qu'il existait dans cette région où nous sommes, au sud-est du Venezuela, qu'il existait un homme, un chef indien, qui dont la peau se couvrait de poussière d'or. Et il fallait aller voir cet homme et, si possible, récupérer un peu de l'or qui l'entourait. Et pour retrouver, pour découvrir, pour voir l'Eldorado, eh bien, des milliers d'hommes se sont battus, sont morts et continuent aujourd'hui de plus belle. De plus belle, puisque dans cette région, donc, de l'Amazonie, de la Guyane, qui rejoint aussi le Brésil, eh bien, il y a depuis quelques années, une nouvelle fièvre de l'or. Ça n'a jamais tout à fait retombé à Eldorado, où nous sommes. C'est un patelin, exactement ce que vous imaginez. C'est-à-dire, là, c'est samedi soir. C'est la double fièvre, à la fois la fièvre de l'or et la fièvre du samedi soir. Des vieilles Chevrolet déglinguées, du rhum, beaucoup de rhum, des mecs avec des chapeaux et des filles superbes, des putes plus ou moins âgées. Les plus âgées sont celles qui ont des dents en or et les très âgées n'ont plus de dents du tout. Voilà l'ambiance à Eldorado. C'est là qu'on va passer un instant avec sur les lieux de l'extraction de l'or avec des mineurs. On ira faire un tour avec Italo. Italo, c'est un Pémon. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les Pémon, c'est une des ethnies de la région, une des ethnies indigènes de cette région du Venezuela. Et puis, on ira en prison, ouais, histoire de faire un petit tour à Eldorado. Il y a une prison où vécut et où passa fugitivement un certain Charrière. Oui, Henri Charrière, vous vous souvenez ? Papillon, celui qu'on appelait Papillon. Eh bien, il a séjourné dans cette prison et il y a laissé deux souvenirs. L'un, c'est qu'il a réussi à s'en échapper, ce qui était un exploit extraordinaire. Et l'autre, mais ça sera tout à fait à la fin de cette heure de là-bas si j'y suis, il a laissé un mot qui est Papillon. Et on va savoir enfin ce que veut dire ce mot Papillon. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, ou à Venezuela. Voilà, le paysage ressemble exactement à ça, à ce que vous voyez, un chien assez flanqué qui aboie au bout d'une ficelle, un ciel lourd, et on est à quelques kilomètres de Eldorado, cette petite ville de chercheurs d'or où on peut acheter et vendre de l'or et faire beaucoup d'autres choses, tout ce qu'on peut faire quand on a la patte de l'or et qu'on arrive à en obtenir un petit peu. Et là, on est sur sur une de ces installations, sur un de ces campements, où on creuse, on creuse, on creuse, en espérant ramasser un peu d'or. Et c'est une calamité. Depuis 1999, avec la hausse des cours de l'or, l'orpaillage clandestin a explosé dans les rivières amazoniennes, dans toute cette région du monde, la Guyane française, le Guyana, le Suriname, le Brésil, bien évidemment, et le Venezuela, là où nous sommes. Pourquoi est-ce que c'est une calamité? À cause, évidemment, des conditions d'orpaillage. Des dizaines de milliers de chercheurs d'or artisanaux envahissent le pays, le paysage, la forêt, les parcs nationaux, les réserves naturelles, et ils dégradent les fleuves, les rivières, contaminent les eaux au mercure, et on va en avoir une preuve à l'instant même sous nos yeux. Le mercure est utilisé pour agglomérer l'or, hein, les poussières d'or qui auraient recouvert le corps de ce chef indien Eldorado. Eh bien, le mercure sert à agglomérer, vous allez voir comment. Et c'est les émanations de mercure, soit dans les fleuves, soit dans l'atmosphère, lorsqu'on chauffe pour séparer le mercure de l'or, qui constitue une pollution absolument terrible, parce que ça rentre dans la chaîne alimentaire, et c'est un poison très très violent qui atteint les populations. On l'avait vu notamment en Guyane. D'autres destructions dues à cet orpaillage sauvage. Je dis sauvage, mais il y a des grandes entreprises qui aussi opèrent dans cette région et qui ne sont pas moins destructrices. Alors là, c'est un camp donc où nous nous trouvons. On peut pas dire qu'on soit vraiment les bienvenus. C'est un samedi en fin de journée, donc les gars se préparent à aller faire la fête à Eldorado, et la fête, c'est vraiment la fête. Mais ceux-là s'attardent, ils sont assis dans un trou d'eau, une sorte de trou d'eau carré, comme ça. C'est très beau, c'est une espèce de jaune d'or, tout à fait. C'est un jaune d'or, l'eau est couleur jaune d'or, la terre presque aussi, avec des nuances de rose et de mauve, de gris, etc., sous ce ciel très lourd. Mais tout ça, cette beauté du paysage, mes descriptions, on n'en a rien à foutre. La question, c'est, y a-t-il ou non de l'or dans cette eau boueuse? Et s'il y en a, combien?
C'est mauvais miel. Voilà, ils sont en train de mélanger leur substrat qui a été filtré de terre avec de la poussière d'or. Ils le mettent dans la bâtée où ils ont mis du mercure à la main, comme ça, tranquillement. Tu vois, là, quand ils bougent, on voit les gouttes de mercure qui glissent au fond de la bâtée. Et ils mélangent toute la poussière dans l'eau, là, accroupie dans l'eau, avec le mercure.
Il n'y a que les particules d'or qui se collent au mercure.
Et là, tu regardes dans le petit pot à gauche, il y a ce qu'ils ont déjà ramassé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une espèce de petite pâte argentée. Et après, ils vont le brûler.
Ils vont le brûler et on va séparer l'or du mercure. Et ce qui sera brûlé va se répandre dans l'atmosphère, dans l'eau, et qui contamine toute la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est pas dangereux, le mercure?
Le mercure est peligroso quand il y a une cicatrice.
C'est dangereux, ah, claro. C'est dangereux quand tu as une cicatrice, quand tu t'es coupé.
En réalité, non, c'est pour que l'autre
vive. À vrai dire, je sais pas pourquoi il
l'interdit. C'est pour le danger à l'ambiente, les pêches.
Je crois qu'ils disent que c'est pour des questions de nuisance à l'environnement.
Quand on s'évapore, que ça quema.
Parce que quand on le brûle et que le mercure s'évapore pour récupérer l'or, là, ça peut être dangereux. Mais liquide comme ça, là, ça, c'est aucun risque, ça fait rien. Regarde, t'as la fiole de mercure qui a même le sol. C'est quoi?
Pour éviter la contamination.
On fait ça pour éviter la contamination, dit-il, pour nous faire plaisir.
Pour récolter l'or aussi.
Mais on n'utilise presque plus le mercure maintenant. Et lui dit, oh, qu'est-ce que je suis fatigué.
Combien d'heures vous travaillez par jour?
10 heures.
Alors évidemment, par rapport à ça, le mercure, on s'en fout, quoi.
On fait 100 tonnes de terre par jour à peu près.
La machine, tu dis, non?
Oui, c'est la machine qui est là-bas. Ils sont avec les gars, ils sont encore avec des jets d'eau en train de faire fondre en fait la colline, quoi, de faire de la boue, et qui est immédiatement aspirée par une espèce de grande suceuse. Là, tu vois, c'est la canalisation qui va là et qui va derrière.
Si est terreno,
tamisé, et ça arrive jusqu'au bout là, dans ce petit seau tout petit.
Si est terreno movido con tractores.
Hein? Main dans main.
Mais si on pouvait retourner toute la terre de ce terrain avec un tracteur, là, on peut en faire encore plus. On peut faire 200 tonnes de terre par jour.
Problème évidemment très difficile à résoudre. Hein. Et on comprend tout à fait que ces gens généralement très pauvres, très très pauvres, venus du Brésil ou bien habitants de cette région, cherchent à vivre tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais les dégâts sont absolument considérables sur l'environnement, sur la flore. J'ai évoqué le mercure, mais sur la faune aussi, parce que la destruction de la forêt, l'arrachage des arbres, de la végétation, met beaucoup plus de limon dans les fleuves. On le voit d'ailleurs quand on est en avion au-dessus dans le petit Cessna, au-dessus de la forêt, et on voit ces rivières. C'est très beau d'ailleurs, si on ne sait pas de quoi ce qui s'y passe. Ces fleuves, comme des veines dorées, comme ça, à travers la forêt, sauf que le doré en question, eh bien, ce sont des limons qui viennent encrasser, disons, les ouïes des poissons, et ce qui fait qui est une catastrophe. C'est une série de catastrophes, et il est très très difficile d'y mettre un terme. Et tous ces soucis d'environnement, etc., les gars le savent très très bien, les gars qui sont devant nous le savent très très bien, mais ils ont d'autres soucis. Beaucoup d'autres soucis.
Oui, c'est tout petit. Alors, geste.
Je comprends pas ce qu'il a fait là. Il a un morceau de tissu dans la main.
Ah voilà, tu vois, maintenant on voit que les derniers grains de sable sont partis. T'as vu, il fait gaffe parce que des fois qu'il y a des petites miettes là. Ah, il y a un petit bout, est-ce que c'est une miette d'or? Non. Il regarde entre ses doigts. Non, c'est une caillasse, une lingette. Dommage. Voilà, on n'en a plus rien. Hop, un dernier petit coup.
Voilà, l'autre il se lève, ça fait 10 heures qu'il est dans. Depuis combien de temps vous êtes accroupi comme ça?
Ça fait depuis midi. Et moi depuis le matin, 10 secondes. Depuis midi, il a le cul dans l'eau. Quoi.
Alors il y a combien d'heures là-dedans?
Pantalla ici, patron, en même.
Avec 12 grammes au moins.
12?
12, ouais.
12 grammes.
Peut-être 14, dit-il.
Alors maintenant vous allez le faire brûler.
On va d'abord le nettoyer.
Chlore un poquito de vinaigre.
On va nettoyer avec un petit coup de chlore et du vinaigre.
Alors d'abord du chlore et du vinaigre, et ensuite.
Porque mamo, lo cambiamos por billete.
Et après on le brûle et après ça se transforme en billet.
Et après tomar rhum.
Et après on peut aller boire du rhum.
Tout ça pour boire du rhum.
Par contre, on peut s'acheter avec 12 grammes, on peut s'acheter une quantité de rhum. Mais ça dépend de la qualité du rhum, parce que si c'est des rhums avec des étiquettes bleues, alors là, on peut en acheter moins parce que ça coûte plus cher. C'est pour ça, en fait. Il y a un petit panneau là, dans l'espèce de cabanon, qui dit que le jour de paye, on ne travaille pas, ni le lendemain. C'est vraiment pour ça, c'est parce que le jour de paye, et le lendemain, on va se.
Bah, on se détend, quoi, on va boire un coup. Ouais.
Oui, t'as un coup, deux, ou trois, ou quatre.
Bah, faut se détendre. Hein.
Voilà.
J'ai pas compris ce que le gouvernement a changé pour vous.
Bueno, ha cambiado porque anteriormente uno estaba a la deriva, nadie.
Ça a changé parce qu'avant c'était un état. C'était un état à la dérive, personne ne protégeait quiconque. Avant on se battait beaucoup, il y avait la guerre pour l'or, maintenant non.
Depuis quand?
Depuis qu'est arrivé Chavez. Les choses ont changé depuis qu'il est arrivé.
Mais est-ce que tu gagnes mieux?
Claro, más tranquilo, más protegido.
On est plus protégé, on est plus tranquille surtout.
Ahora,
maintenant.
Pero anteriormente non.
Non.
Et ce que tu produis, c'est pour toi maintenant. Et là, il avance avec sa pelle maintenant, où il y a son mercure, son agrégat de mercure et d'or.
C'est son regalo para su esposa.
Ah, yo soy todo de ella.
Estaba haciendo un regalito de oro.
C'est un cadeau pour son épouse.
Ah,
c'est elle qui l'a décidé.
Para mi esposa. Yo le digo que yo soy todito completico de ella.
Je suis tout entier pour elle.
Dame.
L'épouse, elle sourit, elle est ravie.
Bah oui, mais quand on la voit, on comprend. Hein.
Parce que elle, c'est vrai qu'elle bossait pas, elle était assise sur la chaise en train de regarder les gars qui triment, quoi, tranquillement.
C'est par amour, l'or et l'amour.
Elle a un collier en or quand même, à la cheville.
Elle a un bracelet de cheville en or. Alors voilà, maintenant on va procéder, on va brûler.
Moi je recule.
Moi aussi, parce que...
Ils vont se mettre un petit peu à l'écart à cause des vapeurs nocives. Et puis voilà, dans la pelle, enfin, on brûle sous la pelle, comme du poêle, quoi. Et puis on s'écarte un petit peu parce qu'on sait ce que ça va faire. Voilà, là on voit vraiment les vapeurs de mercure qui s'évaporent, voilà, qui montent dans le paysage, là. Voilà, avec les quatre chiens qui sont là, les quatre types qui sont autour, et puis il y aura de ça ben, quelques grammes d'or qui sortiront, peut-être 12 grammes maximum, voilà. Ben voilà, ça y est, voilà l'or. Voilà l'or. Dans ces cuillères là, après qu'ils aient brûlé le mercure qui s'est évaporé dans la nature, et ben voilà une cuillère à... Combien c'est, quel poids?
12 grammes, moins ou moins, hein, c'est
12.
350 000.
350 000 bolivars, ça fait 175 dollars.
175 dollars dans une petite cuillère, c'est pas mal.
Et c'est une question de suerte.
C'est une question de chance, de toute façon.
On est... Oh, il y a pesar.
Ah bien, on va aller te peser maintenant.
Ah, il y a un Mac, la télé.
L'électrogène a démarré, ah ouais. Les ampoules et hop, la télé. C'est les gamins tout de suite sont allés dans la télé.
Ah ouais, non, 13.3.
Finalement, le résultat de la pesée, 13,3 grammes.
Alors maintenant, vous allez faire la fête?
Non, estoy echando broma. Claro, la gente, el minero común aquí que vive, el batero, si trabaja el día y en la tarde puro tomar.
Non, on va se reposer. Mais par contre, c'est avec tous les mineurs qui travaillent toute la journée ici avec leur baté, les bateros, alors eux, c'est sûr que le soir, ils vont boire. Et...
Pero yo no, yo tengo años trabajando la mina, tengo mi esposa.
Moi, ça fait des années que je travaille la mine, alors moi, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Je reste tranquille.
No puedo andar tomando rum así, tampoco.
Je peux pas aller comme ça sortir pour aller boire du rhum toute la nuit.
Elle le laisserait pas partir.
C'est l'autorité.
C'est elle l'autorité, c'est elle la chef.
Mais vous avez reçu des aides du gouvernement?
Si. Todas las maquinarias que se han comprado el dinero del gobierno.
Ah bah toutes les machines qu'on a ici, par exemple, c'est avec l'argent du gouvernement. C'est-à-dire en crédit.
En fait, ici dans la région, il y a des petits exploitants comme vous, et puis il y a de grosses sociétés multinationales.
Claro.
Oui, c'est ça.
T'as la Camorra.
La Camorra, c'est le nom d'une autre société.
Si, ils sont travaillés.
C'est marrant, ça s'appelle Camorra.
Les Américains, ça s'appelle la Camorra.
Ils ont
des tonnes d'or de là-bas, cette zone-là.
Si.
Hermé, quel est le nom de la Camorra?
Ecla. Voilà, la société américaine, elle s'appelle Ecla.
Ah, c'est vous qui l'appelez la Camorra.
Ecla.
Ouais, la mafia.
Claro, c'est une compagnie organisée.
C'est une compagnie organisée, ça.
Comme 10 autobus pour mobiliser les travailleurs.
Ils ont 10 bus pour transporter les ouvriers. Ils brassent beaucoup d'argent aussi, oui.
No sé exactamente, pero dicen que semanal 200 kilos, 150.
Il paraît, hein, je sais pas que ce serait 200 kilos par semaine à peu près. Et
une dernière question, tu es chaviste ou pas?
100%.
Ah, c'est la cuisine, elle est en train de faire la cuisine. Oh là là, ça sent l'huile.
C'est des galettes, est-ce qu'elle va cuire naturellement? Maxime, elle va faire des galettes d'arepa, c'est-à-dire des galettes de farine de maïs.
Oh.
Attends le bruit.
Gracias.
Me llaman el Papural, el amigo del parrando. Escúcheme, amiga morena, en la noche del parrando. Óigame, compañero, que me encuentro en Pirao. Estoy en El Dorado y eso que soy de Valle Guanape. Y aquí me encuentro emparrandado. Esta noche, si Dios quiere, salgo por aquí por esta película. Supuestamente aquí me han grabado. El público que me está diciendo, dice que estás en El Dorado, ¿quiénes son franceses? Y aquí me encuentro emparrandado.
Samedi soir à El Dorado, donc au sud-sud-est du Venezuela, une ville entièrement peuplée de chercheurs d'or. Si vous ouvrez un guide touristique au hasard, celui-ci par exemple, sur le Venezuela,
Ah, vous avez un chapitre, tiens, les origines. Les origines. Très bien. Alors, les origines, la première phrase, c'est... C'est le 5 août 1498, au cours de son troisième voyage, que Christophe Colomb aborda pour la première fois le continent sud-américain, dans l'est de l'actuel Venezuela. Les origines, c'est donc le 5 août 1498. Auparavant, qui avait-il ? On fait commencer l'histoire à 1498. Avant Colomb, on ne sait pas ce qui se passait. L'Amérique précolombienne, cette Amérique précolombienne, on en sait finalement pas grand-chose. Mais il y a quand même des survivants de cette histoire terrible qu'on connaît quand même, ce qui a été la conquête, et la conquête de l'or, par exemple. Souvenez-vous, les galions chargés d'or qui revenaient des Amériques et qui abordaient les ports d'Espagne ou du Portugal. Ces fortunes qui font qu'aujourd'hui nous sommes qui nous sommes cette Europe si prospère vis-à-vis de ce monde si pauvre et si hirsute, elle a commencé là. Eh ben non, évidemment, il y avait des hommes avant. Et ces hommes sont particulièrement tenaces. Les Indiens, les indigènes, ceux de ces régions-là ont été particulièrement tenaces. Beaucoup plus que les grandes civilisations, Inca, Aztèque et Maya. Parce que c'était des gens beaucoup plus de la brousse, beaucoup plus de la savane, beaucoup plus de la forêt, beaucoup plus des guérilleros informels, sans capitale précise, sans non sédentaires, qui étaient beaucoup plus difficiles à cerner et qui ont réussi à survivre donc dans les conditions difficiles, mais qui n'ont pas renoncé dans leur résistance. Le nouveau gouvernement vénézuélien leur reconnaît un certain nombre de droits, on en a parlé hier, et là on est avec un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Italo Pizarro. Et il est un Pemón, donc de cette ethnie Pemón. Et c'est pas un Indien avec des plumes, désolé. C'est pas un Indien alcoolique et lamentable, pas du tout. C'est un type qui s'occupe, qui a sa communauté très à cœur. Il est un chef, on dit un cacique ou un capitaine, c'est les noms que c'est qu'on donne. Et il a une grande culture sur l'histoire de son peuple et des Indiens du Venezuela, des indigènes du Venezuela. Et je pense que ça vaut le coup de passer quelques instants avec lui, chez lui. Il nous reçoit gentiment avec ses mômes qui sont en train de regarder la télé dans la pièce à côté, et avec un livre traduit du castillan, c'est-à-dire de l'espagnol, au Pemón, sa langue à lui, qui raconte, qui retrace l'histoire de son propre père, l'histoire du père d'Italo Pizarro. Mémoire Pemón.
Aquí en Pemón se llama Cumutana.
Pemón se s'appelle Cumultán.
Cumultán. En castellano, San Miguel de Betania.
Y en español, San Miguel de Betania.
De Betania. Este es un pueblo Pemón, netamente Pemón. Los niños hablan Pemón, los adultos hablan Pemón.
C'est un village complètement Pemón. Tout le monde parle Pemón, les adultes, les enfants.
Vous êtes combien?
En el estado Bolívar, se maneja de 35,000 Pemón.
Dans l'état de Bolívar, on est 35,000 Pemón.
En total serían ya más o menos como 45 a 50 mil.
Voilà, en total, effectivement, on sera 45 ou 50 000.
Alors, ici, dans la région, est-ce qu'il y a d'autres peuples indigènes?
Sí, aquí estamos los Guarao, Cariña.
Il y a les Guarao, les Cariña.
Macuché.
Les Macuché.
Acahuayo.
Les Acahuayo.
Arahuaco.
Arahuaco.
Y algunos Warao que están de otros estados.
Et quelques Warao qui sont un petit peu disséminés.
Alors ça c'est ils sont combien? Ça c'est des tout petits peuples.
En total población indígena se habla de 333 000 indígenas.
On parle de 330 000 indigènes
vénézuéliens.
Porque hay 8 estados de Venezuela donde hay indígenas.
Parce qu'il y a 8 états du Venezuela où sont installés les indigènes.
O sea, los Pemones más que todo están en el estado Bolívar.
Donc los Pemones, on est avant tout dans l'état de Bolívar.
Wakujos maimo, wakujos maimo, ekone kanto, etau chimpanto, ekone kanto, etau chimpanto, mensaje yenampo, mensaje yenampo, mensaje yenampo. Mensaje llenando, guacurio maimu.
Alors, revenons au livre de ton oncle là, ce livre qui est en espagnol et en Pemón.
Sí, él fue cacique.
Oui, il était
de eso también habla. El papá de él el padrastro de él era cacique.
Son père aussi était chef.
Y después déjà. Fue él. Después de
après
él.
Après lui,
fue,
donc, celui qui était chef aussi dans ce village. Zona, ici, oui, dans cette zone.
Después fue mi papá.
Après, ça a été mon papa.
Después
mon
de père. Mi papá fue un hermano mío.
Après, c'était un de mes frères.
De mamá. Y ahora yo, que ya tengo 14 años como.
Et maintenant, général, c'est moi qui suis capitaine, donc cacique et chef ici depuis 14 ans.
Varias veces elegido.
J'ai été élu régulièrement. Oui.
Qu'est-ce que ça raconte, le livre?
Este libro cuenta la vida social, política.
La vie sociale et politique, donc.
También habla de las enfermedades, habla
des maladies,
de justicia,
de justice.
Habla de minería.
De mines aussi.
Comment commençaron y lo que actualmente ya vimos hoy.
Comment antes. A commencé la recherche de l'or, l'extraction de l'or?
Y la combinación de trabajo minero, lo que es el alcoholismo,
todo lo que sale de l'or, l'alcoolisme,
como producto de venta de comidas y negocios
est-ce ambulantes. Que ça a développé comme marché bueno, ambulant.
Incluso se han visto prostitución.
Et le problème de la prostitution aussi.
Droga, en fin,
la drogue.
Au fond, votre malheur, c'est l'or.
Sí, el oro ha sido mucho problemático porque ha traído.
Oui, l'or a été très problématique.
Enfrentamientos culturales.
Ça a amené des confrontations, des chocs culturels.
Ah, entonces, eso ha llevado también a divisiones entre las mismas comunidades.
Ça a divisé les communautés dans les mêmes communautés entre elles.
Vous avez beaucoup de Brésiliens qui viennent. Les garimpeiros du Brésil qui viennent.
Hay muchos brasileños aquí, hay dominicanos, colombianos.
Il y a des Brésiliens, des Dominicains, des Colombiens.
Como lo vimos, que están en la zona, que buscan el oro, entonces.
Sont dans cette zone pour chercher de l'or.
Siempre hay esa mezcla de todos.
También ce mélange là de guyanés, de nationalités.
Sin embargo, hay algunas comunidades que viven, hablan su idioma.
Il y a des communautés qui vivent, qui parlent leur langue,
de su tradición,
qui pratiquent ses traditions,
y principios ancestrales que ha venido siendo.
Mais toujours quand même avec ce rapport à notre culture ancestrale.
Mm-hmm. Il y a une chose que Italo Pizarro connaît très très bien, c'est le chapitre 8 de la nouvelle constitution du Venezuela. Ça a l'air de rien dire, bon, c'est une révolution. C'est une révolution pour... cette constitution constitue, c'est le cas de le dire, une révolution pour beaucoup de monde au Venezuela, pour beaucoup de Vénézuéliens, mais pour les indigènes tout particulièrement. Loi sur l'éducation des peuples indigènes et sur l'usage de leur langue, 18 juin 2001. Loi d'approbation de la convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, etc., etc. Convention relative aux peuples indigènes, etc. Tout ça, loi organique sur la culture. Oh là 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 là, c'est des lois. C'est très très important. Là, on n'est plus avec de pauvres indiens, avec des ONG qui sont à leur chevet, avec des braves gens qui essayent de faire des choses sympathiques mais charitables. Non, c'est fini. Enfin, c'est provisoire, mais espérons que c'est définitivement fini. Mais en tous les cas, actuellement, voilà, il y a au moins une parenthèse qui est celle que ces hommes, ces femmes indigènes ont des droits. Et le pire, c'est qu'ils le savent.
Bueno, con el presidente, la relación ha sido algo nuevo para el pueblo común.
Donc avec le président, la relación a été nouvelle.
Pero sin embargo, como estamos inmersos dentro de una política muy variada, todavía estamos allí no tan seguros, aunque está en la constitución, pero la práctica falta mucho.
Tout ça est immergé dans une politique très générale de changement. Effectivement, on a un article dans la constitution, mais on attend que les choses vraiment concrètes arrivent.
De todos modos, pues el aprecio hacia el presidente ha sido muy demostrado por el pueblo indígena.
Mais tout le peuple indigène a apprécié l'arrivée du président.
Políticamente, también en la participación política tenemos representantes indígenas en la Asamblea Nacional.
Et donc maintenant on a des représentants indigènes à l'Assemblée Nationale.
Que son tres indígenas.
Donc trois indigènes.
Una Wayú, un Hibi y un Pemón. Que nos representan a nivel político en la Asamblea Legislativa.
Voilà, donc trois indigènes qui nous représentent à l'Assemblée Nationale.
Y también a nivel regional, también tenemos una representación.
Y on a aussi une représentation au niveau régional.
Y eso.
Et municipal.
A la misma constitución que le ha dado espacio para la participación política.
La constitución qui a donné de l'espace à la participation politique du peuple indigène.
Eldorado, toujours sud-est du Venezuela, dans la forêt amazonienne, petite ville de chercheurs d'or. Et là, on a pris une lancha, ça s'appelle, c'est-à-dire une barque, un moteur, qui traverse le fleuve qui coupe la ville en deux. Et ce fleuve nous conduit à une île. Une île un peu particulière, puisque cette île est une prison. Voilà, c'est la prison d'Eldorado. Et cette prison est fameuse, je le disais en commençant, parce que un certain Papillon Henri Charrière y a séjourné il y a bien longtemps et, comme vous le savez, s'en est échappé. Ça n'a pas échappé aux habitants de la région et les rares, mais très rares, touristes français qui s'aventurent dans le coin demandent toujours à visiter la prison. Et c'est possible. Il faut trouver le gardien, le directeur, voilà, il faut une autorisation, les militaires, machin, etc. Mais enfin, on finit par accéder et je ne sais pas si les touristes, bon nous on est journalistes, alors peut-être que c'est un peu plus facile, mais je ne pense pas que ce soit très très difficile si vous êtes touriste. Et on s'attend vraiment à voir une horreur, et c'est pas tout à fait le cas.
On est avec le coordinateur en chef
de la prison d'Eldorado. Cette prison est célèbre parce que Papillon y a séjourné. Henri Charrière y a séjourné. En 1945. Et il s'en est échappé. Et là, sur le toit de ce bâtiment, il y a des jeunes, des détenus.
Radio Francia.
Et qu'est-ce que vous faites sur le toit, là?
C'est ici qu'on vit, nous. En bas, on voit que les murs, donc ici, on a un peu d'espace, là, on a un peu d'horizon. La nuit, on est enfermé dedans, le jour, on monte sur le toit. Et là, on voit les copains qui jouent, là-bas, au volleyball.
Ah ouais, il y a ceux qui jouent au volleyball, voilà pourquoi ils sont sur le toit, c'est pour voir les autres.
Et là, c'est celle, ce qu'on appelle la maison jaune. Ah, ça, c'est la maison de redressement, quoi. Si c'est pour les condamnés, là, c'est le mitard, quoi.
Là, vous avez été jugé ou pas encore?
Hein? Oui, ça y est, ils ont été jugés.
Ils ont leur peine, d'accord.
20, 20, 25 ans.
Est-ce que vous avez des visites?
Aujourd'hui, c'est la visite, ouais. Il y a la famille qui va rentrer par là-bas.
Et vous pouvez recevoir vos femmes?
Voilà, il y a les visites conjugales là-bas, il y a une petite pièce spéciale.
Et pam pam. Il a ajouté.
Et pam pam. Ah ouais, mais c'est pas en France. Attends.
Non, c'est vachement
bien. Tu rigoles? Bon, vous êtes pas trop maltraité?
Il était pensant au coordinateur qui leur fait un gros bras d'honneur.
Ah bah, on nous traite comme des prisonniers, quoi. En normal, comme des prisonniers. Une routine, quoi, normale. Donne-nous un billet, là, pour qu'on fasse une petite bouffe, là. Allez, il faut faire un cadeau, là. Il faut participer, là. Ah, si on veut leur donner quelque chose.
Je leur donne un petit bistin.
Ouais. Oh, c'est drôle. Il y en a un qui, en courant sur le toit, il a perdu son arme. Il avait un couteau dans son short. Et le couteau est tombé sur le toit. Voilà. Alors, on a filé notre billet au chef, qui l'a donné au garde, qui l'a donné au coordinateur, qui leur a jeté exactement comme on jette des cacahuètes aux fauves. Comme on donne à manger à des fauves. Et voilà, maintenant, ils remontent sur le toit. Bonne chance.
Suerte.
Suerte.
Joyeux Noël et merci beaucoup.
Et on va voir des gens qui vont nous parler, qui travaillent, des ateliers, etc. Moi, je suis prisonnier aussi. Moi, je suis prisonnier, mais je travaille un peu à l'extérieur, donc je fais le jardin, etc.
Depuis quand tu es là, toi?
15.
Ça fait 15 ans que je suis là.
Ça fait 15 ans?
circo.
Et j'ai encore 5 ans à tirer.
Todo eso, moi, tu no lo corta.
Voilà, tu vois, je coupe l'herbe là, sur le bord de la route.
Si. Por ahí hay gente que trabaja, ve, la,
ah, il y a une cantine là.
Todos los muchachos, todos somos presos,
todos. Là, tous les gens que tu vois, ils sont prisonniers comme moi. Mais là, c'est d'accord. des petits ateliers. Les petits...
Ça va être une rue normale.
Tu mets tes photos là.
Attends, c'est mettre la photo.
Alors lui, il vend des petits cadres pour mettre des photos en forme de cœur là, pour les gens qui visitent.
Voilà, son artesanía.
Trois photos là.
Et depuis quand tu es là, toi?
Yo tengo 5 años aquí.
Ça fait 5 ans que je suis là.
Llevo 15 años.
Ça fait 5 ans ici.
Otro pedazo, estaba en Barcelona.
Ça fait 15 ans en tout que je suis en prison. J'étais à Barcelona aussi.
Yo estaba en el penal de Margarita, el 89.
En 89 à Margarita.
El penal de Barcelona. Después para el de Bolívar.
Après la prison de Bolívar.
Después, otra vez me llamaron para Barcelona.
Après, je suis retourné à Barcelone.
Otra vez para Margarita.
Encore une fois à Margarita.
Otra vez para Barcelona.
Ah, retour à Barcelone.
Después para acá.
Après, ici.
Después para Valencia.
À Valence.
Después otra vez para acá.
Après, à nouveau, on m'a ramené ici.
Después para Carúpano. Después otra vez aquí.
Et après, voilà, je suis là.
Ahora estoy aquí.
Donc, t'as passé toute ta vie en prison.
15 ans et 3
mois. Et je paye pour 24 ans, là.
24 ans.
Con una redención por el trabajo y el estudio que yo he trabajado, yo hago.
Et j'ai une remise de peine parce que je travaille et je fais des études.
Hago 21 años con la redención, el trabajo y el estudio.
Avec ma remise de peine.
Comment tu t'appelles?
Astudillo Feli.
Astudillo Feli.
Sí. Ajá, sí, me dicen Felito.
Felito.
Ok. Toi, tu as entendu parler de Papillon. Est-ce que tu as entendu?
Papillon, la historia que yo escuché de él es que él era un prisionero o un ladrón.
J'ai entendu, c'était un prisonnier, un grand voleur qui était dans cette prison.
Se fugó de la cárcel más segura.
Et il s'est réussi à s'enfuir d'une prison qui était encore plus en sécurité.
Nosotros los presos, los venezolanos aquí, tenemos este decir de él, que él agarraba su dinero y su prenda y él se papilloneaba. Parece que no tenía un papilloneado, era que se metía... La prenda en
et nous,
culo.
Les prisonniers, ça nous est resté parce que lui, il avait de l'argent et en fait, il mettait de l'argent dans son cul. Et c'est de là qu'on vient papillonner chez nous parce que papillon, en mariposa, ici, ça veut dire PD. Ça vient de là pour nous, les prisonniers du Venezuela. C'est papillon parce qu'il était PD.
Si, non, dile,
parce qu'il se cachait son fric dans son cul.
Et quand on veut echarle broma à autre, le decimos, t'es un papilloneado.
Ah, et quand on veut se foutre de la gueule de quelqu'un qui est un peu efféminé, on le traite de papillon.
Por eso, dice, mettez la caneta papillon.
C'est pour ça qu'on les appelle papillon. Mettez dans le filet.
Taqueaban. Taqueaban, il se mettait une aina pour le cul et se mettait un tapon.
Voilà, il mettait un bouchon après.
Pero yo estoy hablando, era. Yo sí sé porque yo he leído el libro y he visto la película.
J'ai vu le livre, j'ai vu le film.
Sí, película. Entonces,
et voilà, ça s'appelle aller au bout du monde pour un bout de conversation, aller si loin et si longtemps au Venezuela pour amener des informations pareilles. J'espère que c'est pas la chose que vous retiendrez de ce voyage. Merci à tous. Guy Vanctil, reporter, traducteur, Antoine Chao, traduction. Tout savoir sur le Venezuela, c'est sur le site Rizal, rizalcollectif.net. Je voudrais d'autres précisions. Je voudrais remercier tous ceux qui, au cours de ce voyage, nous ont aidés. Thierry Deron, François Meurice, Georges Bartoli, Pablo Ekelt, Tania Delgado, Maurice Lemoine, Témir Porras, Rachel Carouel, ambassade de France, Caracas, Patrick Dessex, Christophe Quintel, Pierre-Jean Van Dorn, Maximilien Arvelez, Blanca Ekaout, Margarita Lopez Maya, Ernesto Piki Figueroa du groupe Santison, Daniel Slobodianic, Malena Vidmaru, Wendy et Werling Duran, Alonso Zapata, Jerry Campos, Miguel Enrique Otero, José Simon, Casilda Berti, Italo Pizarro et Soraya Reyes. Pardon à ceux que nous oublions. Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian. Réalisation Antoine Chao. L'équipe de la base UGFI, c'est Yann Chouquet, Raphaël Mouter, Pascal Pascariello. Le numéro des répondeurs, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. On se retrouve demain à 17h pour La Basse, si j'y suis. Dans 1 minute 56 de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. À demain, 17h. Salut!